ces paysages majestueux ont été façonnés par l'homme. Le territoire d'Écosse et des Cévennes est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion du 10e anniversaire de cette labellisation, allons à la rencontre de celles et ceux qui connaissent bien ce territoire, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils en parlent avec passion. Ce podcast est réalisé par la marque de cosmétiques L'Accent, en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Cosse et Cévennes. Épisode 14, le chemin de Stevenson.
Il arrive dans le massif central où on parle le patois différent d'un village à l'autre et on l'attend chaque soir, c'est le notaire, le notable, l'instituteur, voilà, qui vient pour lui conseiller en fait son itinéraire pour le lendemain.
De son périple de 12 jours entre le monastier sur Gazeille en Haute-Loire et Saint-Jean-du-Gard, Robert Louis Stevenson rapportera un récit, Voyage avec un âne dans les Cévennes. En 1878, c'est ainsi que l'écrivain écossais, auteur de L'île au trésor, est entré dans l'histoire de ce territoire. Aujourd'hui, le GR70, ou chemin de Stevenson, est parcouru par des milliers de randonneurs et c'est l'association Sur le chemin de Robert Louis Stevenson qui œuvre pour le développement et la valorisation de cet itinéraire. Rencontre avec Anne Chrétien-Noury, animatrice culturelle de l'association. Anne Chrétien-Noury, bonjour.
Bonjour Julien.
Alors on va parler du chemin de Stevenson, de la randonnée et donc du chemin de Stevenson, parce que sur ce territoire, quand on parle randonnée, on pense forcément à cet itinéraire. Quelle est l'histoire de cet itinéraire ?
Alors, je tiens à rappeler que c'est du fait des gens du club Cévenol. En fait, l'un d'eux, universitaire, va visiter son fils dans une université à Yale, en Californie, et tombe, en allant visiter le library, sur le manuscrit de The Seven Journal. Et en fait, on est en 76 et il décide en fait qu'à 2 ans du 100e anniversaire, c'est une occasion inespérée de republier ce récit de voyage et d'en être le point de départ de la célébration du 100e anniversaire du passage de Stevenson. Donc en 1978, j'ai assisté ici à la célébration organisée par le club Cévenol pour dire, voilà, ça pourrait être un fil conducteur de développement local.
Avant d'en arriver au développement local à travers ce sentier, il y a eu effectivement ce récit, 1878. Dans quel contexte on est là ?
En fait, c'est le fils d'une famille presbytérienne. Donc, il a été confronté aux protestants assez violents en Écosse. Et donc, il a vraiment réfléchi à la différence entre protestants, catholiques, etc. Et il a entendu parler des camisards et il s'était promis qu'un jour, il viendrait à la rencontre du pays dans lequel catholiques et protestants ont vécu en bonne intelligence.
Il descend vers le sud, il arrive dans l'équivalent de la Haute-Loire, c'est ça,
alors,
actuel ?
Il fait d'abord une première expérience sur les canaux du Nord, donc il fait de Anvers à Pontoise, et puis on lui dit, mais va retrouver les protestants, et puis il prend, alors l'aventure du moment, c'est de prendre le PLM à la gare de Lyon, c'est tout nouveau, ça vient d'être inauguré.
Paris-Lyon-Marseille.
Paris-Lyon-Marseille, et sur une carte qui est relativement approximative, il s'arrête au point le plus proche du dernier S du mot Cévennes sur la carte et ça l'amène donc au Puy et puis au monastier sur Gazeille où il se dirige en diligence et là commence son périple à pied. Alors on lui dit de là, mais mon pauvre monsieur, vous allez vous faire détrousser par les brigands, vous ne trouverez pas non plus d'auberge, vous ne trouverez pas de nourriture, etc. Ce qu'il décide en fait à acheter, sa monture, il se trouve que c'est une ânesse qui s'appelle Modestine et vous savez Modeste, c'est comme modeste en français et en anglais. Et in, c'est auberge. Donc en fait, la Modestine, ça lui permet d'assurer son autonomie en partant avec cette ânesse sur laquelle il fait coudre des peaux de mouton dans lesquelles il met son nécessaire et qui lui permettra de dormir sous la lune avec le sac de peaux de mouton. Et il est l'inventeur du premier sac de couchage.
À chaque fois, il écrit donc et il envoie ce récit, c'est ça, en temps réel ?
C'est assez prodigieux. Imaginez cet Écossais qui vient du fin fond de l'Écosse, qui aime le français, certes, mais il arrive dans le massif central où on parle le patois différent d'un village à l'autre et on l'attend chaque soir, c'est le notaire, le notable, l'instituteur, le prêtre, le curé, ou voilà, qui vient pour lui conseiller en fait son itinéraire pour le lendemain. Donc il se fait comprendre ainsi et s'intéresse à ces gens et se fait comprendre pour trouver son chemin en direction des camisards.
Ces rencontres, ces paysages, ça nourrit le récit.
Ah, c'est ça. Il découvre les paysages paysages et s'intéresse à ce dont les gens vivent. Et il décrit ça et l'envoie comme un photojournal, enfin un roman feuilleton sur un journal. Et ça fait vendre le journal. Donc on lui dit, mais envoyez, c'est parfait. Et c'est son premier écrit qui lui permet, première pige, qui lui permet d'affirmer sa vocation d'écrivain. Alors que son père était constructeur de phares et qu'il aurait aimé que son fils suive cette voie. Et voilà, il affirme sa détermination d'écrivain.
Et donc, un siècle plus tard, on s'intéresse à nouveau à ce récit, à cet itinéraire. Et pour le coup, on cherche une manière de valoriser cet itinéraire.
C'est ça. Et le support idéal, c'est le descriptif en fait, de son voyage, qu'il a d'abord envoyé donc, à ce journal, et qui en fait, prend une cohérence parce que partout, on le renseigne sur les modes de culture, sur la façon dont on a planté les bois, etc. Et quand on a trouvé le manuscrit, le Club Cévenol a pu rééditer sa première version, avec une superposition comme ça de visualisation des paysages actuels. Et en fait, ça n'a pas tellement bougé, en fait.
Donc entre la redécouverte, d'une certaine manière, de ce texte et 1994, date de la création de votre association hein, sur le chemin de Robert Louis Stevenson, expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé et surtout, pourquoi vous avez voulu structurer en association la valorisation de ce sentier.
Eh bien, dans la continuité aussi de ces questions que se posait le Club Cévenol, et à Florac et dans le secteur en fait de la Lozère, on se posait la question toujours d'actualité de quoi allons-nous pouvoir vivre dans l'actuel environnement et puis l'avenir. Et donc la randonnée pédestre s'avérait être pertinente. Donc on a repris le tracé et puis la première formule de topo guide que le Club Cévenol avait réalisé, rien que sur ses écrits, pour savoir par où il était passé. Et à partir de là, on a pu définir que ce serait un axe idéal de développement. Nous étions aussi plusieurs à travailler, à vivre au pays et à se poser les questions de l'avenir. Et donc, dans le cadre d'un centre de formation professionnelle, quelqu'un est venu frapper à la porte en disant « Voilà, moi, j'habite Cassagnas, j'aimerais que mon gîte revive. Enfin, j'ai un endroit dont je pourrais faire gîte. On pourrait le faire. Mais alors oui, donnons une cohérence à ça. Vous n'êtes pas le seul concerné. » Et on remonte, en fait, la pelote et on se dit, sur cet itinéraire, on pourrait mettre les gens en relation. Et c'est là qu'on organise grâce à un dispositif du Languedoc-Roussillon, on organise un dispositif qui s'appelait formation-développement qui permettait de réunir les gens, de les faire se concerter tout le long de l'itinéraire en fait, et emboîter le pas aussi à la Fédération de randonnée pédestre qui en 1993 éditait le premier topo guide GR70 sur les chemins de Robert Louis Stevenson, et l'association s'est créée dans le prolongement avec une expérience qui a mobilisé à peu près 80 personnes par voie de presse. On a demandé aux gens de répondre si oui ou non ils seraient intéressés de développer de l'accueil, de l'hébergement, de la restauration, des services qui pourraient assurer une certaine continuité pour que le chemin soit praticable. Et petit à petit, on est passé de 5, 10, 15 hébergeurs. Aujourd'hui, nous sommes 200 entreprises et des villages où on nous dit si le Stevenson n'existait plus, le village n'existerait plus.
Quelle profession on rencontre ?
Des hébergeurs, des restaurateurs, le transport des bagages par exemple, mais aussi l'animation, la rencontre culturelle, c'est aussi des voyagistes. L'itinéraire couvre sur 3 régions, 4 départements, 38 communes. Donc il a fallu mettre les gens autour de la table pour essayer de collaborer et surtout la rencontre avec celui qui se présente sur le chemin est à chaque fois différente puisque c'est très diversifié. Vous savez, ça représente quand même là maintenant 9,5 millions de retombées annuelles. Dans des petits pays comme ça, ça veut dire quelque chose. Et voilà, ça donne une vitalité. Et en tout cas, on compte autour de 6 000 randonneurs. Mais dans tout ça, il y en a une faible proportion qui fait le chemin dans son entier. Il y en a une autre faible proportion qui le fait avec des ânes. Mais en tout cas, ça représente une réelle dynamique économique.
Prochain épisode de ce podcast, nous partirons du côté de l'Observatoire du Mont-Aigoual pour parler un petit peu météo et de la vocation de ce site. Qu'est-ce que ça vous inspire, Anne Chrétien-Noury ?
La météo, outre les frimas de l'hiver, ce sont aussi les épisodes Cévenol, puisque la configuration du terrain nous expose à des pluies diluviennes méditerranéennes au printemps et à l'automne. Donc nous sommes très attentifs à tout cela. Et c'est déjà intégré par les baliseurs, c'est intégré par nos soins, par les gens qu'on appelle pour réserver une prestation. Sur les conditions météo, nous sommes avertis et vigilants.
Merci beaucoup Anne Chrétien-Noury.
Avec plaisir.
Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.